Kiosque Magazine.
Bon matin à tous. On va espérer qu'avec le soleil, la chaleur va venir aujourd'hui. Avec les derniers jours, c'était pas facile. Alors, bon matin Anne-Marie, bon matin Christine.
Bon matin.
On va parler ce matin, en fait, il y a une division. On va parler de la vie, ensuite des enfants. Alors, Christine, tu vas nous parler de quoi exactement?
Alors, dans un premier temps, quels sont ces gènes vedettes qui font le secret des centenaires, en tout cas, du moins, de la longévité? Qu'est-ce qui nous donne cette formidable énergie? Ensuite, il sera question du stress. Est-ce un ami? Est-ce un ennemi? Mais plus particulièrement, en fait, comment peut-on accompagner les jeunes, les ados dans les preuves des examens?
Ah, ça a l'air bien intéressant. Et toi, Anne-Marie?
De mon côté, c'est vraiment... je me suis vraiment concentrée dans les troubles d'apprentissage, dans la période d'examen qui s'en vient. Alors, comment aider un enfant qui a une intelligence frontière? Souvent, on a tendance à penser que le TDA est relié vraiment... les troubles d'apprentissage sont liés au TDA, mais souvent, c'est le cas, c'est que les enfants ont une intelligence frontière. Alors, on va démystifier ça. Et un excellent texte de Mylène Moisan aussi, Le secret de la tortue.
Oh, ça a l'air bien intéressant. On va vous souhaiter une bonne heure.
Elle a 92 ans, 65 jours, elle s'appelle Harriet Thompson, elle vient de courir le marathon de San Diego, c'est-à-dire 42,195 km. En 7h24, 36 secondes, c'est donc la performance de cette formidable femme. Elle a en elle tous ces gènes, justement vedettes, qui font que cette grand-mère de 10 petits-enfants en est à son 16e marathon. Aimer la vie jusqu'à 100 ans et plus, c'est donc l'article de René Archambault qui nous parle justement de ces gènes vedettes du secret des centenaires. C'est un article paru dans Le Vivre, volume 14, numéro 4, de mars-avril 2015. Le secret des centenaires, voilà un sujet passionnant. Comment l'énergie vitale peut-elle être assez puissante chez certaines personnes pour habiter leur corps avec santé pendant 10 ans, 20 ans ou même 30 ans de plus que leurs semblables ? L'énergie est un phénomène mystérieux, elle est cependant observable, relativement mesurable, renouvelable de diverses façons, et il me semble que la plupart d'entre nous maîtrisent bien peu ce processus qui constitue, à mon sens, une véritable mine d'or pour rehausser notre qualité de vie. Possédez-vous des gènes vedettes? Parmi les centenaires et les supercentenaires, soit 110 ans et plus, on retrouve bien entendu de formidables dispositions génétiques. Selon une étude menée de 1990 à 2000 par le docteur Yves Christon, de la Fondation Ipsen, ceux-ci possèdent des gènes vedettes, les éloignant de certaines des maladies les plus courantes. La maladie d'Alzheimer et les pathologies cardiovasculaires, bien longtemps on a cru qu'il était impossible d'agir sur l'hérédité de l'être humain. Mais des études menées sur les animaux nous permettent d'être optimistes pour l'avenir. La première conclusion de cette étude est qu'il n'existe pas une recette unique et précise imputable aux centenaires. Ils n'ont pas une morphologie ni une origine géographique commune, pas plus qu'un mode d'alimentation, ou un groupe sanguin identique. Ceci permet de démontrer, selon ces chercheurs, le caractère multifactoriel de cette prédisposition, donc sa complexité pour la recherche. Même le caractère génétique n'est qu'une variable, puisqu'uniquement 60% des centenaires avaient un parent qui avait vécu jusqu'à 100 ans. Deuxième conclusion, une formidable volonté de vaincre. En effet, cette conclusion de cette étude est que les centenaires ne sont pas des épargnés des difficultés de la vie. Ils ont souvent connu, comme c'était le cas de cette dame de 92 ans, deux guerres mondiales, parfois la faim, la plupart du temps le deuil du conjoint, etc. Et ce, dans un contexte de prise en charge sociale qui n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Donc, aucun facteur de chance n'a pu jouer en faveur de leur grande disposition au vieillissement. Les auteurs de l'étude en arrivent à mettre l'accent sur le rôle essentiel de la résilience, cette attitude qui permet de faire face à un problème de façon ouverte et positive. En fait, les centenaires ont en commun une formidable vitalité. Une ouverture d'esprit, une volonté de vaincre. Certains poursuivent leurs études. Adriana Giannilli, par 94 ans, diplômée en droit en Italie. D'autres montent des associations, d'autres pratiquent leur sport favori au quotidien, comme Bernarda Angulo, 97 ans, championne de natation. Cultiver la vie. Passons en revue des aspects qui sont plus spécifiques à la personnalité des centenaires et qui favorisent leur longévité. Ceci représente également une partie des composantes sur lesquelles ils ont le plus de contrôle ou interfèrent leur volonté. Ce que ces doyens ont tous en commun, c'est qu'ils semblent avoir les meilleures dispositions du monde vis-à-vis de l'existence. Ils ont un moral à toute épreuve et cultivent une gaieté constante, un goût de vivre. Ils prennent soin de leur santé en restant actifs. Ils travaillent pour que la vie soit passionnante et continuent de viser des objectifs personnels. Ils apprécient ce qu'ils ont et sont souvent généreux, n'hésitant pas à donner du soutien, de l'affection. Enfin, ils ont une vie sociale épanouie. Retarder l'épreuve du temps. L'observation exhaustive de ces supervivants permet de démontrer qu'ils adoptent une alimentation saine, composée par exemple au Japon, de beaucoup de soja, fruits, légumes, poissons, algues, une alimentation riche en antioxydants, en fibres, qui sont ennemis du cancer, et en acides gras essentiels. À une alimentation équilibrée, ils font le choix d'éviter de se resservir et préfèrent rester sur leur faim et ils se gardent loin du sucre et du gras. Leur consommation d'alcool est nulle ou très restreinte et ils consomment du thé vert en grande quantité. Actifs physiquement et aussi intellectuellement, ils s'intéressent à de nombreux sujets et ont des passions qui stimulent leur faculté d'attention, de concentration, de réflexion, de mémoire. Ils peuvent ainsi jouer un rôle social valorisant. Une révolution de longévité, en somme. Le nombre des hommes et des femmes qui ont franchi la barre du siècle et d'existence est estimé à plus de 560 000 sur le globe, dont 4 fois plus de femmes que d'hommes, imaginez. Les spécialistes estiment que l'on assiste à une véritable révolution de la longévité puisqu'en l'espace de 8 générations, soit environ 200 ans, l'espérance de vie a doublé. Elle a augmenté en Grande-Bretagne et en France au rythme de 2 années par décennie. Anecdote intéressante. Ainsi, pour chaque heure écoulée, notre durée de vie augmente potentiellement de 12 minutes, soit de 5 heures par jour. La longévité ou l'allongement de la durée de vie d'un être vivant est devenu, avec le réchauffement climatique, un des principaux défis de nos sociétés sur le plan économique. La vie, c'est un incroyable miracle. Sur le plan personnel, l'exemple vivant de ces centenaires m'interpelle, dit Renée Archambault. Elle me stimule dans la conduite de ma vie comme une incroyable témoignage de sa force et un exemple à suivre. Vivre, c'est reconnaître et respecter son énergie, honorer la vie, la cultiver. L'amour semble se cacher derrière tout comme un formidable moteur. Qu'est-ce que la vie, sinon un incroyable miracle? Un miracle qui se renouvelle constamment. Restez ouvert à celle-ci et à ce qu'elle peut vous apporter. Ne commettez jamais l'erreur d'arrêter de croire. Rien n'est impossible. J'adore croire au miracle et quand je n'y croirai plus, la terre ne sera plus ma maison, conclut l'auteur.
Alors, une belle histoire parce qu'on aime les belles histoires. Le secret de la tortue, un texte de Mylène Moisan tiré du soleil. En première année, Anne-Marie Dussault ne comprenait pas grand-chose. En fait, elle ne comprenait qu'une seule chose, elle n'était pas normale. Elle en arrachait pour tout et ça ne donnait rien, à part des railleries dont les enfants ont le secret. Tout le monde avait tout le temps des biens, et bien moi, je rochais et je n'avais jamais de biens. Ses copies étaient mitraillées d'encre rouge. Sa mère avait beau lui répéter qu'elle était une championne, qu'elle allait finir par réussir à force de persévérer, Anne-Marie n'y arrivait pas. J'étais poche. Les autres comparaient toujours leurs notes et moi, je cachais ma feuille en dessous de mon bureau. Elle ne dormait pas la nuit avant un quiz ou un cours d'anglais. Trop stressée et à 6 ans. Elle ne levait jamais la main pour répondre à une question. Elle savait qu'elle aurait la mauvaise réponse. Il fallait faire du calcul rapide à haute voix chacun notre tour. Elle se plantait à tout coup. Elle a doublé sa première année et passé par défaut en deuxième année parce qu'elle ne pouvait pas faire une troisième fois sa première année. Pendant ce temps-là, sa mère cherchait à savoir ce qui n'allait pas. Elle avait un plan d'intervention depuis la maternelle, mais on ne savait pas ce qu'elle avait. Tout ce temps-là, l'école la maintenait dans une classe ordinaire. Il paraît que c'est bon pour l'estime. Anne-Marie avait 11 ans quand le fameux diagnostic est tombé. Trouble du langage, dyscalculie et trouble de la mémoire. Elle est dans le 1% percentile de mémoire pour son âge. Autrement dit, 99,9% des élèves ont plus de mémoire qu'elle. Un exemple, avant le diagnostic, elle a perdu un crayon. Elle perd souvent ses crayons. La professeure était tannée qu'elle perde ses affaires. Elle a pris mon bureau, l'a viré à l'envers et l'a vidé par terre. Pas très bon pour l'estime, mettons. Après le diagnostic, Anne-Marie s'est retrouvée dans une classe spéciale, une classe « langage ». Il a recommencé à lever la main quand le prof pose une question. On est tous pareils. Je vois que je m'améliore, je ne pédale plus dans le vide. Ça fait 2 ans. Elle est rendue en 3e année en mathématiques, en 4e année en français. Elle, qui n'était pas capable de lire une phrase complète, quand elle est arrivée, lit maintenant des romans. Elle écrit des textes, elle n'avait jamais fait ça avant. Son enseignante, Mélanie Théberge, m'a envoyé un texte qu'elle a écrit la semaine passée. Ça s'appelle « Histoire de ma vie ». Ça commence par « Où j'ai commencé ». Elle parle de son diagnostic. Quand j'ai su que je n'étais pas comme les autres, dans mon cœur, ça m'a fait mal. Personne ne veut être dans une autre catégorie. Elle a 5 catégories d'élèves. La première catégorie, les personnes normales. La deuxième, les personnes qui se pensent plus autres que les autres. La troisième, les personnes sportives et cool. La quatrième, les intelligents. Et la cinquième, les personnes en difficulté scolaire comme moi. Qui voudrait être dans la cinquième? Moi, parce que j'ai appris à voir mes différences. Il n'y a aucune faute. La beauté de l'affaire, quand on se trouve dans la catégorie des différents, c'est que pour une fois, on est comme les autres. Des derniers qui peuvent aspirer à être premiers. Il y a des personnes comme moi, nous, on travaille plus fort que la normale. Si je veux avoir mon permis de scooter, je veux faire plus d'efforts qu'une personne normale. Mais je vais être sûrement plus contente parce que j'ai travaillé très fort à comparer d'une personne qui a réussi en claquant des doigts. Judy, qui est dans la même classe qu'Anne-Marie, a eu son permis de scooter. Anne-Marie ne retournerait jamais dans une classe ordinaire. J'ai eu de l'intimidation par des élèves et même par une prof, celle qui a vidé son pupitre. Ça m'a fait des blessures, mais j'ai surmonté cela. Avec la mère extraordinaire que j'ai su me relever. J'ai une vie particulièrement difficile, mais je l'aime. À la fin de l'histoire de sa vie, Anne-Marie répond à une question à 1 000 $. Comment s'aimer soi-même quand on est différent? Arrêtez de regarder les gens autour. Le plus difficile, c'est de se faire confiance, de foncer. Et surtout, arrêtez de se comparer. Je sais de quoi je parle. Je me comparais tout le temps aux autres et j'ai appris à ne plus le faire. Si on se compare, on n'avancera pas dans la vie. C'est le secret de la tortue dans le lièvre et la tortue de la fontaine. Elle part, elle s'évertue. Elle se hâte avec lenteur. La mère d'Anne-Marie, Valérie, l'appelle toujours sa championne. Je l'aime comme ça depuis qu'elle est toute petite, et avant, elle me répondait toujours « Non, maman, je ne suis pas une championne, je suis poche. » Et cette année, pour la première fois, elle m'a dit « Tu as raison, maman, je suis une championne. » Comme la tortue qui bombe le torse en coiffant le lièvre au fil d'arrivée.
Je suis entré tout petit, sans le savoir, comme tout le monde. Derrière ces murs, j'ai grandi et j'ai observé chaque seconde. J'y suis entré naturellement, personne m'a demandé mon avis. J'ai étudié son fonctionnement, ça s'appelle l'école de la vie. Faut savoir qu'ici, tout s'apprend, les premières joies et les colères. Et on ne sort jamais vraiment de cet établissement solaire. À l'école de la vie, il y a des matières obligatoires. Et certains cours sont en option pour te former à ton histoire. La vie démarre souvent avec le prof d'insouciance. Il est utile, il t'inspire et puis il te met en confiance. Mais juste après vient le cours des responsabilités. Tu découvres les maux de tête et les premiers contrôles ratés. Le cours de curiosité est un passage important. En le comprenant assez tôt, j'ai gagné pas mal de temps. Puis j'ai promis que je m'inscrirais dans le cours de promesses. J'ai parfois été fort dans le cours de faiblesse. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs, j'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. En cours de grosses galères, j'ai eu quelques très bonnes notes. C'est ce genre de résultat qui te fait connaître tes vrais potes. Ça m'a donné des points d'avance et une sacrée formation pour le cours de prise de recul et celui d'adaptation. Je me souviens du cours d'espoir, j'avais des facilités. À moins que je ne confonde avec le cours de naïveté. Il y avait une filière mensonge et une filière vérité. J'ai suivi les deux cursus, chacun à son utilité. En cours de solitude, j'avais un bon potentiel. Se satisfaire de soi-même est un atout essentiel. Mais j'aime bien aussi l'ambiance qu'il y avait dans le cours de bordel. J'ai vite compris que l'existence se conjugue mieux au pluriel. C'est qu'en cours d'humanité, j'ai eu 2 très bons professeurs. On a eu des travaux pratiques tous les jours, moi et ma sœur. J'espère que petit à petit, j'ai bien retenu leurs leçons. Et qu'à l'école d'une autre vie, je transmettrai à ma façon. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs, j'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir. d'histoire d'amour, j'ai longtemps été au fond de la classe. Le cul contre le radiateur, j'ai bien cru trouver ma place. En pleine récréation, alors que je n'attendais rien, j'ai reçu ma plus belle leçon et le prof m'a mis très bien. Au cours de liberté, il y avait beaucoup d'élèves en transe. Le cours d'égalité était payant, bravo la France. Pour la fraternité, il n'y avait aucun cours officiel. Il n'y avait que les cours du soir, loin des voies institutionnelles. Alors on saigne, on cicatrise, on se renseigne, on réalise les bons coups et les bêtises, on s'allie, on se divise. Moi, pour comprendre l'existence un peu plus vite ou un peu mieux, j'ai choisi le cours d'enfance en ville et j'ai même pris l'option banlieue. Reste qu'en cours de bonheur, le prof était souvent malade. On s'est démerdé tout seul, on a déchiffré ses charades. Autodidacte en sentiment, y aura pas d'envie sans piment. Dans mes cahiers en ciment, moi j'apprends la vie en rimant. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Tout s'entend, on s'entraîne, des matières par centaines. C'est l'école de la vie, j'ai erré dans ces couloirs. J'ai géré dans ces trous noirs, j'essaierai d'aller tout voir.
Alors merci à Grand Cœur de Malade. On va pas... Grand Corps Malade. Bon, finalement, il était très bon.
C'est un grand cœur aussi.
Il y a un grand cœur aussi, c'est ça. Alors, on va passer à la science de la vie démystifiée qui a été publiée le 2 juin dans la Presse Plus, qui a été une collaboration spéciale de Myriam Femiou. Alors, ce système médical le plus ancien de l'humanité est une thérapie qui met en valeur le style de vie et insiste davantage sur l'aspect préventif que curatif. On le présente souvent comme étant la mère de toutes les autres médecines, une manière globale de vivre. Pas étonnant qu'Ayurveda veuille dire « science de la vie » en sanskrit, la langue dans laquelle sont codifiés les traités de cette médecine. Encore peu répandue auprès des patients occidentaux, elle est adoptée par les deux tiers des Indiens pour le traitement de leurs soins de santé primaire. Cette pratique thérapeutique a été colligée sous forme de corpus médical universitaire il y a 100 ans. En Inde, les médecins sont formés dans cette discipline comme dans toute autre spécialisation. Chez nous, elle est surtout dispensée par des thérapeutes en médecine douce. Sur quel principe de base se base cette médecine? Selon l'Ayurveda, le corps humain, tout comme la nature, est composé de 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ces 5 éléments sont représentés chez l'humain sous la forme de 3 types de constitution physique et mentale, des doshas en langue sanskrite, qui portent le nom de kapha, pitta, vata. L'objectif est de trouver l'union équilibrée du corps, des sens, de l'esprit et de la conscience selon notre dosha. Quand on arrive à carrément ne faire qu'un avec les éléments, l'équilibre de notre nature est respecté, notre santé est préservée. C'est comme si on érigeait un gardien de sécurité dans la maison pour empêcher les intrus d'entrer, au lieu de les éliminer en ayant recours à des moyens qui pourraient par le fait même s'attaquer à la maison et à son habitant. Sanjay Kumar, docteur en ayurvédique depuis 20 ans dans le sud de l'Inde. Comment ça fonctionne? L'Ayurveda est une méthode globale de diagnostic et de traitement qui se distingue par le fait qu'elle offre un programme de santé personnalisé en fonction du dosha de chacun. Il ne suffit pas de cibler le symptôme. Le médecin ou le thérapeute ayurvédique veut comprendre la source et tenter d'éliminer le déséquilibre par des changements alimentaires et de style de vie au moyen de soins de détoxification ou de phytothérapie par le yoga et la méditation. Ce serait peut-être un bon truc pour nos finances dans le ministère de la Santé. Une stratégie de guérison ayurvédique peut être utilisée comme approche principale ou en traitement complémentaire à un traitement moderne, explique Vaidya Eman Gupta, qui a étudié la médecine ayurvédique pendant 10 ans en Inde. Il l'enseigne et la pratique au Canada depuis bon nombre d'années. Est-ce une philosophie ou une science? Ses fondements sont philosophiques, mais son application est scientifique. Le diagnostic est toujours validé sur la base de la médecine moderne, souligne le Dr Kumar. Les questions posées pour arriver à un diagnostic sont les mêmes qu'en médecine scientifique, mais les réponses apportées sont différentes. Le traitement prône la prévention et sa seule philosophie, s'il en est une, est que nous avons la responsabilité de nous garder en santé et de nous guérir sans espérer une médecine miracle qui garantit une pilule magique. Est-ce efficace pour traiter des maladies graves comme le cancer? Selon la vision ayurvédique, on ne devient pas malade parce qu'on a le cancer. On développe le cancer parce que notre corps est malade. C'est un symptôme de l'organisme qui dépérit et qui a des problèmes systémiques. Le cancer s'installerait en terrain acide et serait conditionné par différents types de stress ou de causes toxicologiques, environnementales, génétiques ou radiologiques. Dans ces cas, l'Ayurveda aborde la thérapie de façon globale et intègre l'utilisation de plantes aux effets anti-tumoraux qui attaquent et réduisent la croissance de la tumeur. Ce traitement mise sur la croyance que certaines plantes peuvent empêcher une récidive en accordant beaucoup d'importance à la récupération et à la fortification du système nerveux. Ces techniques sont rares et maîtrisées par peu de praticiens ayurvédiques. Comment se déroule une consultation? Une consultation débute par l'évaluation de notre dosha sur la base d'un examen physiologique et psychologique complet, tel que l'observation de la peau, la langue, les ongles et les yeux, en auscultant les poumons et le pouls. Parfois, on procédera à des tests sanguins et urinaires et on se penchera aussi sur les antécédents médicaux. Par la suite, le praticien pourra déterminer le ou les déséquilibres s'il y a lieu et prodiguer des conseils et des soins selon un plan personnalisé. Et à quoi s'attendre lors d'un traitement? Un traitement se fait habituellement en trois volets. Bien que plusieurs médecins modernes réfutent l'idée de toxine, la purification de l'organisme est une étape importante en Ayurveda. Après avoir traité les doshas de l'intérieur par une série d'actions détoxifiantes appelées panchakarma, le corps est prêt à recevoir un traitement ciblé. Pourquoi décorer la maison si on n'a pas encore fait le ménage? Le docteur Vaidya Hemangupta. Ensuite, une médication peut être administrée. Celle-ci sera composée d'épices, d'herbes aromatiques, d'écorces et de plantes médicinales ou de minéraux qui ont fait l'objet d'études probantes. Cette méthode ancienne est de plus en plus synthétisée par des entreprises qui transforment et rendent la pharmacopée plus accessible. Finalement, les malades pourront, dans plusieurs cas, recouvrer la santé simplement par le changement d'habitude et ça commence souvent dans la cuisine, au lit ou à la toilette. Le docteur Gupta est convaincu que l'ajustement du cycle de sommeil, du régime alimentaire, de la régularité de l'élimination ou encore du type, de la fréquence ou de l'intensité de l'activité physique de ses patients pourront être la clé. Parfois, il va simplement suggérer de manger moins épicé, de boire de l'eau chaude fréquemment ou de se lever plus tôt. En Ayurveda, la voie du mieux-être ne passe pas seulement par la visite au cabinet du médecin ou à la pharmacie. Il y a quatre piliers dans la réussite d'un traitement: le patient, le praticien, le système de santé autour d'eux et finalement les médicaments. Un des principes est aussi de se souvenir de suivre son régime et sa routine 80 % du temps et d'avoir du plaisir le reste du temps.
On parlait de médecine ayurvédique, donc mêlant l'esprit, le corps. Bienfaisant yoga est autrefois associé à une activité essentiellement spirituelle. Le yoga en est fait, tout comme les exercices de même type, comme les pilates, l'antigymnastique, le tai chi, etc., fait maintenant partie du quotidien des athlètes, des cyclistes et finalement de monsieur tout le monde. En effet, le yoga est associé à de nombreux effets bienfaisants, notamment dans la prévention et la guérison des douleurs lombaires, le maintien de la souplesse et du tonus abdominal, l'augmentation de la mobilité des hanches et des épaules et la conscience améliorée de la respiration. Que ce soit en groupe ou à la maison, tout Tout le monde, les cyclistes, les athlètes, bénéficieront de la pratique régulière du yoga à condition de respecter une progression appropriée, tenant compte de leurs limites.
Alors, une autre brève, lien entre suppléments et cancer des testicules. Les hommes qui consomment les suppléments afin de développer leur musculature multiplient leur risque de souffrir d'un cancer des testicules, prévient une étude publiée dans le British Journal of Cancer. Les suppléments mis en cause sont notamment des comprimés ou des poudres de créatine ou d'androsténédione, excusez-moi pour la prononciation. L'auteur principal de l'étude, Tong Sang Zen, a précisé que le risque de cancer testiculaire est particulièrement élevé chez les hommes qui ont commencé à consommer des suppléments avant l'âge de 25 ans, chez ceux qui en consommaient plus d'une sorte ou chez ceux qui en consommaient depuis plusieurs années. Monsieur Zen et ses collègues ont interrogé près de 900 hommes, dont 356 qui souffraient d'un cancer des testicules. Ils les ont notamment questionnés concernant des facteurs comme le tabagisme, la consommation d'alcool, la sédentarité, l'histoire familiale de cancer testiculaire et des blessures à cette partie du corps. Même en tenant compte de tous ces facteurs, les hommes qui avaient utilisé des suppléments gonflaient de 65 % leur risque de souffrir d'un cancer des testicules comparativement aux hommes qui n'en avaient jamais consommé. Le risque augmentait de 121 % chez les hommes qui ont commencé à prendre des suppléments avant l'âge de 25 ans, de 156 % chez ceux qui en consommaient depuis 3 ans et plus, et de 177 % chez ceux qui en consommaient plus d'une sorte. L'incidence de cancer des testicules est passée de 3,7 cas par 100 000 hommes en 1975 à 5,9 cas par 100 000 hommes en 2001, en 2011, sans que les scientifiques ne comprennent pourquoi. M. Zeng admet que le cancer testiculaire demeure très mystérieux, mais estime que l'association notée par son étude démontre que les suppléments utilisés pour développer la musculature sont possiblement un facteur de risque important et modifiable.
Les examens approchent, panique en vue. C'est là un article de Kathleen Michaud, de Parents Erdo, volume 6, numéro 4, 2015. Cet article, alors que la semaine dernière, je traitais de l'anxiété de performance, on était davantage dans le problème d'intervention. Là, on se situe davantage dans la solution. Panique en vue, donc, mais les examens, c'est pas drôle pour de nombreux étudiants, effectivement. Ils sont une grande source de stress. Mais pour des raisons différentes, chez certains qui ont des difficultés dans une ou plusieurs matières, les examens représentent la chance ultime de réussir, car s'ils échouent, cela signifiera à coup sûr l'obligation de suivre un cours d'été. Pour d'autres, c'est la peur de ne pas exceller car ils sont perfectionnistes et cherchent à obtenir d'excellents résultats. Que peut-on faire pour les aider à mieux vivre cette période éprouvante, demande Kathleen Michaud. Alors voilà ce qu'elle propose, tout est dans la planification. Environ 50% des enfants qui proposent une peur panique des examens n'ont pas étudié de façon rigoureuse, qui éprouvent en fait une peur panique des examens, n'ont pas étudié de façon rigoureuse depuis le début de l'année scolaire, nous dit Claire Leduc, qui est travailleuse sociale et thérapeute familiale. Les jeunes qui ne maîtrisent pas bien leur matière depuis septembre sont bien entendu plus anxieux. Certains pourront même manipuler leurs parents en affirmant que s'ils ont de mauvais résultats, cela est dû à leur stress. Mais quand un jeune connaît bien sa matière, dit Madame Leduc, il n'a pas de raison d'échouer à l'examen. Il est donc important que nos enfants planifient une période d'études chaque soir, plusieurs semaines avant le jour J, et qu'ils rencontrent leurs professeurs s'ils se rendent compte que certaines notions ne sont pas assimilées. Il faut les encourager à se coucher tôt pendant cette période, et non à aller au lit à 4 heures pour se lever à 5 la veille de l'examen. Épuisé, l'enfant a alors toutes les chances d'oublier ce qu'il a étudié. On doit aussi exiger de lui qu'il ne consomme ni stimulants, ni drogues, ni alcool, qui ne font qu'amplifier les symptômes de nervosité. Gérer le stress, c'est donc justement la question. Dans les moments plus difficiles, il est essentiel de bien s'alimenter. De même, faire un peu de sport ou pratiquer des activités de relaxation peut aider à évacuer le stress. Par exemple, on peut mettre de la musique de relaxation le soir, l'inviter à prendre une marche avec nous. On peut aussi étudier avec notre jeune. Cela peut le sécuriser si on voit la matière avec lui, suggère Madame Leduc. Mais bien entendu, on doit aider notre enfant s'il a le trac. Une fois qu'on lui a donné des méthodes de travail, s'il demeure stressé, on demande qu'il soit rencontré par le psychologue ou la travailleuse sociale de l'école qui lui apportera soutien et conseil. Car le stress, il faut apprendre à vivre avec. Qui n'en subit pas au cours de sa vie ? C'est vrai que les ados qui souffrent de troubles de l'attention ont généralement plus de difficultés que leurs compères de classe. Étudier est donc avant tout un défi en période d'examen, quand il faut mettre les bouchées doubles. Mais on peut les aider aussi. Chez les enfants qui ont de la difficulté à se concentrer, je suggère cette méthode de travail bien simple, mais qui fonctionne. On leur fait écrire à la main, 3 fois, la notion qu'ils doivent apprendre. Voilà quelques notes de piano qui ont un effet très relaxant justement et qui nous amènent à nous poser la question, le stress, ami ou ennemi, c'est le centre d'études sur le stress humain du CHE de Sainte-Justine et la santé mentale pour enfants de l'Ontario qui nous donne ces quelques éléments. Vivre du stress à l'occasion est tout à fait normal et même vital. Dans une situation dangereuse, le corps sécrète des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui pousse la personne à fuir ou à combattre. Sans elle, l'espèce humaine n'aurait jamais survécu. À petite dose, le stress peut également être une source de motivation à bien se préparer pour un examen, par exemple. Mais cette nervosité peut devenir démesurée et envahissante. Lorsqu'elle est assez grande pour causer des symptômes et nuire aux activités quotidiennes du jeune, on parle alors de troubles anxieux, on en a parlé la semaine dernière. Il s'agit du problème de santé mentale le plus fréquent chez les enfants. Environ 10% d'entre eux en souffrent, et dans 6% des cas, il est suffisamment grave pour nécessiter un traitement. Ce trouble peut prendre plusieurs formes, comme donc l'anxiété de performance, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée et le trouble obsessionnel compulsif, le syndrome de stress post-traumatique, la phobie. On ne nommera que cela. Une thérapie parfois jumelée à la prise de médicaments est souvent très efficace pour y remédier.
Alors, pour compléter, il y a d'autres types de stress chez les enfants et plus précisément chez les ados. On va parler de virginité rendue à la fin de l'adolescence. Alors, c'est un article qui a été publié dans la presse du 30 mai par Sylvia Galipo. « Je suis vierge, moi non plus. » Un jeune sur deux finit son secondaire vierge au Québec. Ça m'a excessivement surpris. Je ne pensais pas que c'était le cas.
Alors, vous pensiez que c'était quoi, le pourcentage?
Ça allait plus autour de 10 % là, qu'il ne l'était pas, là, mais bon. Qui était vierge, excusez. Quand Tania Saint-Laurent, formatrice et intervenante à Tel Jeune, énonce cette statistique dans ses tournées dans les écoles, les élèves n'en reviennent pas. En secondaire 5, dans leur tête, les 3/4 des jeunes l'ont déjà fait. Et pourtant, même s'ils se sentent souvent seuls au monde et ne le crient pas sur tous les toits, à leur arrivée au cégep, même à l'université, ils sont encore nombreux à ne pas l'avoir fait, justement. Et ce, malgré toutes les apparences d'hypersexualité ambiante. Une statistique qui n'a pas bougé depuis 30 ans, faut-il le préciser. La virginité n'est pas un concept très clair pour les jeunes, confirme l'intervenante de tels jeunes, qui sont nombreux à se questionner sur les conséquences de leur comportement. La masturbation, les sextos, la webcam, est-ce que ça compte? C'est quoi au juste être vierge? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Si on n'a pas eu de pénétration, on est vierge. Mais souvent, les jeunes ont eu une sexualité. C'est une limite qui n'en est pas une, explique Tania Saint-Laurent. Les études, très peu nombreuses, sur la virginité, parce que le phénomène, pas très sexy, n'est pas non plus associé à un problème de santé publique, se basent néanmoins sur ce fameux concept de pénétration vaginale, excluant de facto les relations homosexuelles. Et à quel âge perd-on cette fameuse virginité? En moyenne, la majorité des Québécois de souche ont leur première relation sexuelle entre 16 et 18 ans, répond la chercheuse Marie-Aude Boilard-Pépin, professeure de sexologie à l'UQAM et l'une des rares à s'intéresser à la virginité. À 17 ans, pour un jeune sur deux, donc, c'est chose faite. À 18 ans, dans la majorité des pays occidentaux, 90 % des jeunes caucasiens ont eu leur première relation sexuelle. Plus on s'éloigne de ce chiffre, plus on peut parler de virginité tardive. Marie-Aude Boilard-Pépin, professeure au département de sexologie à l'UQAM. D'où la question, qui sont ces jeunes? Pourquoi ne les entend-on jamais? Et surtout, pourquoi sont-ils encore vierges à 20, 25, voire 30 ans? À l'automne 2013, la chercheuse, sous la direction de Dominique Beaulieu-Prévost, a sondé plus de 3000 étudiants de l'UQAM, moyenne d'âge 25 ans. Du nombre, 200 étaient encore vierges. Un choix ou pas? Qui sont-ils? L'enquête a conclu que les étudiants vierges avaient tendance à être issus de communautés culturelles, à être plus jeunes que la moyenne et à vivre toujours chez leurs parents. Les vierges étaient aussi moins nombreux à être dans une relation amoureuse, plus souvent dans des activités religieuses, avec des valeurs plus conservatrices et moins satisfaits de leur vie. On n'est pas tout à fait étonné. Selon la chercheuse, une question fondamentale se pose d'ailleurs ici. La virginité est-elle un choix ou un manque d'opportunité? Si c'est tabou, c'est parce que les gens voient ça comme un manque d'opportunité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme une fierté. Ces recherches visent d'ailleurs à démontrer la très grande hétérogénéité des parcours des personnes vierges. Certains, surtout certaines, considèrent leur virginité comme un cadeau. D'autres, inversement, comme un stigma, une honte, voire un fardeau. Oui, c'est ici surtout le cas des gars. Le double standard semble demeurer. L'enquête de l'UQAM a d'ailleurs démontré que plus les gars se sentent conformes aux stéréotypes masculins, lire viril, moins ils ont tendance à être encore vierges. Inversement, plus les filles se disent conformes aux stéréotypes de la féminité, plus elles le sont. Pour certains gars, perdre leur virginité est un indicateur de leur virilité. Mais pour certaines filles, on entend encore le discours de la pureté. Marie-Aude Boilard-Pépin. Une autre enquête, plus troublante encore, réalisée avec le psychologue François Poulain de 2002 à 2012, a démontré que les jeunes les moins populaires en sixième année sont aussi les plus nombreux à être encore vierges à 21 ans. Conclusion, malheureusement, on connaît très peu les besoins en matière d'éducation à la sexualité des vierges, dénonce la chercheuse. Ce qu'on souhaite, c'est que cette virginité soit en cohérence avec leurs valeurs. Gare à la pression des moyennes. À cet égard, la sexologue et auteure de « La vie porno de nos ados », Valérie Morancy, met en garde les personnes vierges contre cette fameuse peur de ne pas être dans la norme. « Il n'est pas anormal de ne pas avoir eu de première relation sexuelle à 15 ans et demi », dit-elle. « Certains le font plus tôt, d'autres plus tard. » « Qu'est-ce qui compte finalement ?» se demande-t-elle. « Être dans une moyenne statistique ou faire un choix conscient et réfléchi ?» Être dans une normalité définie par la société ou être à l'écoute de son corps, de celui de l'autre, savoir ce qu'on aime, reconnaître son désir, le maîtriser, sans oublier de se protéger. La maturité sexuelle n'arrive pas au même moment pour tous, conclut-elle. Certains l'ont à 15 ans, d'autres à 25, ne l'ont toujours pas. Alors, pour compléter, il y a l'avis du psy. Le psychanalyste Maxime-Olivier Moutier voit régulièrement passer dans son cabinet des gens sans la moindre sexualité. « Il y en a plus qu'on pense », dit-il. « Beaucoup de gens peuvent avoir des blocages », dit-il. « Des hommes incapables de séduire des femmes. Moi, j'ai vu des gens de 70 ans qui n'avaient jamais eu de relations sexuelles. Des gens qui préfèrent vivre sans ça. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile que ça. » Parce qu'arrivé à un certain âge, certains craignent de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir s'y prendre ou surtout de ne pas être capable de faire jouir une femme, explique le psychanalyste. Il y a quelque chose qui relève de la fierté d'un homme. Pour les femmes, la virginité tardive peut s'expliquer par la vision de la sexualité comme quelque chose de violent. Elles ne veulent pas être prises pour un objet. Certaines sont tout simplement insensibles au niveau des organes génitaux.
y a ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesse et sans répit en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Avec toi, te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. Qu'on joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, allécher des jours malheureux. Les soirs de pluie, les matins gris, sous le soleil de midi. Jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit.
Do I say, what do I do? I got the fire, so I'm making my dreams come true. No, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live? How did they breathe? The gift of penetrating means nothing but a plan to see in need. Just feels good in your body too. What if I quit walking out here like a retard too?
Look into my eyes, I said look.
À ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour.
Alors, c'est sur ce titre de Pierre Lapointe que je vous parle de mon prochain article. Alors, comment aider mon fils qui a une intelligence frontière? C'est tiré du magazine Enfants Québec de mars 2015. Je trouvais ça bien intéressant. Alors, mon fils a beaucoup de difficultés à l'école. Nous croyons qu'il souffrait d'un TDAH, mais il a plutôt une intelligence frontière. Comment l'aider à cheminer malgré tout? Manon Gatineau. On estime que près de 5 % de la population a une intelligence frontière, c'est-à-dire d'un potentiel intellectuel se situant entre la limite de la déficience intellectuelle. Comme pour votre fils, il n'est pas rare que l'intelligence frontière soit confirmée tardivement dans le contexte de difficultés scolaires. En effet, les premières étapes de développement du jeune ayant une intelligence frontière sont habituellement franchies normalement. Cependant, avec l'augmentation des exigences scolaires, l'enfant ayant une intelligence frontière éprouvera des difficultés à suivre le rythme de ses camarades. Il sera, par exemple, difficile pour lui de jongler avec des notions abstraites et des raisonnements plus complexes. L'élève qui décroche par incompréhension peut paraître inattentif, devenir agité, développer des difficultés de comportement, voire de l'anxiété et une humeur dépressive en raison de ses échecs répétés. Une fois le quotient intellectuel évalué par le psychologue, les objectifs d'apprentissage pourront être adaptés au niveau de fonctionnement de l'enfant, ce qui lui permettra de connaître des succès et de réaliser son plein potentiel. Au secondaire, le cheminement se fait généralement dans des classes adaptées, où l'accent est mis sur l'apprentissage de l'autonomie plutôt que sur les matières scolaires. Comme parent, votre contribution est très importante. Sachant maintenant que l'école ne sera probablement pas la plus grande source de valorisation de votre fils, vous aurez à soutenir sa motivation en tablant sur ses forces et d'autres facettes de sa personnalité qui le rendent unique. Le psychologue qui évalue votre fils pourra vous aider à comprendre son fonctionnement dans les différents domaines de sa vie, communication, socialisation, entre autres. Ces informations vous permettront d'ajuster vos attentes et d'adapter vos interventions, niveau de langage, complexité des tâches au quotidien, afin de mieux le guider sur le cheminement de la pleine autonomie. Les enfants qui ont une intelligence frontière ont un quotient intellectuel se situant entre 70 et 85. Selon les échelles de Wechsler, ils sont donc à la limite de la déficience intellectuelle, un QI inférieur à 70. À titre comparatif, le quotient intellectuel moyen est de 100. Le quotient intellectuel, ou QI, est le résultat d'un test psychométrique doublé d'un examen psychologique qui permet de fournir une indication quantitative sur l'intelligence d'un enfant, afin de déterminer le rapport entre son âge réel et son âge mental. Chez l'adulte, le test détermine le niveau d'intelligence de l'individu par rapport au reste de la population. Rassurez-vous, le jeu vidéo ne cause pas l'Alzheimer. Un titre de l'agence Science Presse. Quelqu'un vous a dit la semaine dernière que les jeux vidéo pouvaient causer l'Alzheimer? Cherchez encore. L'étude existe, mais le communiqué envoyé envoyait une fausse piste. En gros, des chercheurs montréalais ont comparé la façon dont un groupe de 26 joueurs et un groupe de 33 non-joueurs apprennent et portent attention. Sans surprise, il y a des différences entre les deux groupes. Quelles différences? Le type d'apprentissage vécu avec les joueurs se passe dans une région du cerveau appelée le noyau codé. Une augmentation de l'activité de cette région est associée à une diminution du volume de l'hippocampe. Et il se trouve qu'une diminution du volume de l'hippocampe augmente le risque d'Alzheimer. Il faut noter que les chercheurs ont dû se défendre d'avoir affirmé dans leur étude que les jeux vidéo peuvent causer l'Alzheimer. Même si cette façon que la nouvelle est sortie dans certains médias, dont le Daily Telegraph de Londres mercredi, c'est parce que le communiqué de presse original attirait l'attention sur cette association en faisant dire au Dr. Gregory West de l'Université de Montréal, cela veut dire que l'intégrité de l'hippocampe, dis-je bien, des personnes qui jouent beaucoup à des jeux vidéo d'action pourrait être réduite, ce qui est associé à un risque accru de troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer. Le véritable objectif de l'étude était en fait de mesurer un type de comportement que des études précédentes ont associé à l'activité normale du noyau codé. Une approche moins excitante de l'Alzheimer, mais plus en phase avec celle de la neurologie tenter d'apprendre de notre cerveau. Et plus en phase avec des échantillons de 26 personnes qui peuvent nous apprendre. Comme pour nous rappeler que les racines de l'Alzheimer sont fort complexes, une autre étude parue dans la même semaine suggère que ce mal aurait pu évoluer parallèlement à l'intelligence humaine au cours des 50 à 200 000 dernières années. Une équipe chinoise observe en effet que leurs études déposées sur le serveur BioRxiv, que 6 gènes impliqués dans le développement de notre cerveau préhistorique semblent être aussi impliqués dans l'Alzheimer. C'est comme si le développement très rapide de notre matière grise, quelques centaines de milliers d'années, c'est rapide à l'échelle biologique, avait eu des conséquences néfastes sur le vieillissement. Reste à voir si la méthode utilisée par ces chercheurs de l'Institut des sciences biologiques de Shanghai s'appliquera à des échantillons de génome plus vastes. Reste que dans l'état actuel des connaissances, nous sommes le seul primate à connaître l'Alzheimer.
J'aimais 203, j'ai un autre petit complément pour la virginité. de Sylvia Galipeau dans La Presse. Alors, le prince charmant et autres mythes. À chacun son motif. Certains sont encore vierges parce qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne, attendent le mariage, ont peur d'avoir mal ou de ne pas être à la hauteur. Mais cette fameuse bonne personne, ce prince charmant, existe-t-elle vraiment? La sexologue Valérie Morancy voit d'un très mauvais œil les comédies romantiques à l'eau de rose, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Le beau gars séduit la belle fille et il se retrouve avec une belle maison, un chat, un chien et une belle relation sexuelle, ironise-t-elle. Le problème avec ces fictions? Mais ce n'est pas ça la vraie vie. Or, si les films pornos sont régulièrement décriés, personne ne monte aux barricades pour dénoncer l'irréalisme des films romantiques. Et qui dit attente dit aussi risque de déception. Si on s'attend à ce que la relation soit comme dans les films, on risque d'être frustré. Le mythe de la douleur. Deuxième mythe à déboulonner, la douleur. Non, la douleur n'a rien à voir avec le fait, avec le fait d'être vierge ou pas. C'est un beau mythe que je démystifie dans mes ateliers, poursuit la sexologue. C'est que la présence de sang est trompeuse. Bien souvent, l'hymen est déjà perforé, ne serait-ce que pour laisser passer les menstruations. S'il y a douleur, ce n'est pas parce que la femme est vierge, donc, mais bien parce qu'elle n'est pas suffisamment lubrifiée. La douleur est en lien avec le manque de préparation, martèle la sexologue. Un problème que tous peuvent facilement prévenir avec un peu de doigté, sans jeu de mots, et surtout de lubrifiant.
Moi, pour enchaîner avec l'accompagnement de nos jeunes, en fait, j'ai vu une petite brève dans le Châtelaine de juin 2015 qui nous parle de nos enfants. Exceptionnels, nos enfants, même si Fiston est bourré de talent et que Fillette est une petite douée, mieux vaut ne pas le leur répéter trop souvent, car dire aux enfants qu'ils sont remarquables les rend narcissiques selon une étude de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas. On a recruté pour ce faire 565 participants, âgés de 7 à 12 ans, période de la vie où se développent l'égoïsme, l'égocentrisme et la vanité. Pendant 18 mois, les enfants ont répondu à des questionnaires sur l'affection que leur témoignaient leurs parents. Mère et père étaient sondés sur le degré de « génie » entre guillemets de leur progéniture. En croisant ces données, les chercheurs ont conclu que l'amour et l'affection des parents génèrent une solide estime de soi chez les enfants, mais que les louanges et les éloges excessifs encouragent le narcissisme.
Alors, comme je disais en début d'émission, on espère que la chaleur reviendra. J'ai un article « L'arrière-train à l'honneur ». Le mercure commence à grimper, la saison des maillots approche et impossible de passer à côté des créations féminines et sexy de la griffe montréalaise June Swimwear, inspirée de la culture de surf. La designer Julie M. Dumais propose pour l'été 2015 des bikinis couleur flash et des imprimés géométriques ou tie-dye, le tout souvent juxtaposé à des couleurs plus sobres, rappelant des éléments de la nature comme le sable, le turquoise de l'eau, le rose orangé d'un coucher de soleil, dit-elle. Un juste équilibre, et chaque pièce est interchangeable. La culotte, qui fait la renommée de la marque, dévoile les courbes joliment, de façon boutiquini, qui monte juste au-dessus de la fesse. Les surfeuses l'ont adoptée. Les maillots fabriqués au Québec sont vendus dans une trentaine de boutiques, dont Unicorn, Empire et Manoir Coquetterie à Montréal.
Pour boucler et faire fermer la boucle sur la longévité, sauna, si l'usage régulier d'un sauna serait associé à la longévité, c'est ce que révèlent les travaux réalisés pendant 20 ans auprès de 2000 Finlandais d'âge mûr. Le sauna étant une tradition très ancienne dans ce pays, la grande majorité des participants pratiquaient ce rituel au moins une fois par semaine et les plus assidus de 4 à 7 fois. Et plus la fréquence et la durée des bains étaient grandes, plus le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire diminuait. L'étude n'avance pas d'explication, mais on peut imaginer que l'effet relaxant du sauna y est bien pour quelque chose.
Alors, c'est ainsi que se conclut cette édition du 3 juin de Kiosque Magazine. Au microphone, Anne-Marie Mélina Simard, en remerciant mes deux collègues Louise Mercier et Christine Boucard. Merci.
Merci, bonne semaine.
C'était très agréable. En souhaitant que le soleil sera avec nous pour le reste de la journée et de la semaine. Alors, aussi en remerciant notre technicien Mathieu Tessier et en vous rappelant que notre émission est disponible sur vuesetvoix.org, les rediffusions à 13h et 21h. Et nous sommes disponibles également sur les canaux numériques. Bonne semaine!